dimanche après le dîner, vois ma tante Marie-Blanche qui est toute transformée. Ben mon oncle René sort trop les doigts dans le nez. Ben mon oncle René sort trop les doigts dans le nez. Ma tante Marie-Blanche a rattrapé son temps. Puis si vous êtes trop blanche, mesdames, faites-en autant. Ma tante Marie-Blanche a dit de faire comme elle. Allez-y, sautez de votre branche, allez voir, vous avez des ailes, vous le savez pas, mais vous avez des ailes. Mesdames, mesdames, vous êtes belles, envolez-vous, faites comme elle. Mesdames, mesdames, vous avez des ailes, vous le savez pas, mais vous avez des ailes. Mesdames, mesdames, vous êtes belles, envolez-vous.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et nous sommes, nous, toujours en compagnie d'Evelyne Hasler, Annette Zimmermann et Maria Roth pour évoquer le dernier livre d'Evelyne Hasler, Émilie Kemping-Spiri, La femme aux ailes de cire. Émilie Kemping, première femme juriste d'Europe qui a eu toutes sortes de difficultés à réaliser son existence comme elle en avait envie, et entre autres à faire cohabiter sa vie de femme, de mère et ses désirs professionnels. Et je vous lis un dernier extrait peut-être qui évoque justement ce problème. Madame Kemping, quel âge avaient vos trois enfants quand vous avez commencé vos études ? C'est un sujet qui obsède Clarissa Rose à la garde à l'asile d'aliénés de Friedmatt. Mais comme elle sait qu'Émilie ne lui répondra pas, elle va chercher dans l'armoire sous une pile d'articles de la revue Du Rocher à la Mer. De tout ce que Madame Kemping a écrit, c'est ce qu'elle préfère. Le reste n'est que fatras juridique. Et elle lit un extrait. Parce que j'ai personnellement éprouvé à quel point il est impossible de satisfaire à toutes les exigences d'une double activité. Je crois que toute femme qui n'est pas passée par là n'en parle que comme un aveugle des couleurs. Plus il nous faut reconnaître que toutes les voies doivent être ouvertes à la femme dans la lutte pour l'existence, que la simple humanité commande de ne fermer à ses capacités aucun domaine d'activité, plus il devient nécessaire de ne pas nous bercer d'illusions. J'ignorais aussi, jusqu'à ce que l'expérience me l'enseignât, qu'on ne peut assigner certaines heures aux soins et à l'éducation des enfants. C'est avec d'amers regrets que la femme se rappellera les moments où elle s'est soustraite à ses enfants. Que peuvent-elles comprendre à cela, toutes ces femmes sans enfants ou célibataires qui en général sont à la pointe du mouvement féministe ? C'est bien vous qui avez écrit cela, Madame Kemping ? Émilie fait signe que oui. Peu avant d'entrer à la clinique psychiatrique de Langwitz, déjà malade, pressée par le manque d'argent, harcelée par les adversaires des droits de la femme, harcelée par des femmes de son propre camp qui lui reprochent d'avoir trop les pieds sur terre dans le combat féministe, de ne partir que de données concrètes, de manquer de grandes visions d'avenir. Que savent-elles de la vie d'Émilie, ces célibataires avec leurs revenus réguliers ? Vous avez frustré vos enfants de leur mère et vous-même vous vous êtes privé des joies de la maternité, n'est-ce pas, Madame Kemping ? Donc, vous regrettez d'être devenue juriste ? Non, lance-t-elle avec violence. Si vous pouviez recommencer, vous étudieriez de nouveau ? Vous vous contredisez, Madame Kemping ? La vie est contradictoire, Clarissa Rosa, dit Émilie. La vie naît de la contradiction, pense-t-elle. L'homme et la femme, le jour et la nuit, on révèle une vérité, mais en même temps, on en cache d'autres. Une femme doit s'occuper de ses enfants, mais qu'arrive-t-il si l'on ne vit plus soi-même ? À supposer qu'elle eût consacré tout son temps à ses enfants, qu'aurait-elle pu leur apporter avec cette insatisfaction constante, ce sentiment de passer à côté de la vie ?
Alors, Évelyne Hasler, dans le passage que nous venons d'entendre, À la fois, il y a un document sur lequel vous vous êtes basé pour connaître un petit peu mieux la vie d'Emily Kempin. Et il y a, disons, la rédaction du livre, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, la manière dont vous vous sentez proche de votre héroïne et comment vous y prenez-vous pour restituer d'une manière littéraire, parce que finalement cette biographie est en somme un roman, pour, à partir des documents que vous connaissez sur sa vie, nous raconter, nous la faire saisir au niveau intuitif concernant ses sentiments, concernant sa manière de vivre. Comment voilà, vous y prenez-vous?
Voilà, je crois, dans mon travail, il y a deux parties. D'abord, une année et demie environ, je fais des recherches et je suis très scrupuleuse quant aux faits. Mais ensuite, il y a peut-être une année et demie de nouveau, un procès du travail d'écrivain.
Oui.
J'écris des scénarios intérieurs et je crois entre ces deux phases, c'est nécessaire de faire une espèce de méditation, d'aller très loin. Quelquefois, je vais sur une île grecque. Quelquefois, je m'éloigne des bibliothèques, des livres, des archives. Et je pense là-bas, les faits commencent à devenir quelque chose, un morceau de moi-même.
Alors, vous y pensez beaucoup ?
J'y pense beaucoup, et il y a peut-être une espèce d'identification. Voilà. Je pense, dans ce passage qu'on vient d'entendre, je me souviens moi-même, moi j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, et j'ai écrit plusieurs romans. C'était assez difficile, et comme ça je sens une espèce de solidarité avec Émilie. Oui. Et je pense que c'est nécessaire, c'est quelque chose de très personnel. Ça devient une chose très personnelle, un roman comme ça.
Comment vous faites vous-même d'ailleurs, Evelyne Hasler, puisque vous dites que vous avez 3 enfants, alors comment vous faites cohabiter votre vie d'écrivaine et votre vie de mère de famille ?
Quand les enfants étaient petits, j'ai commencé à écrire plutôt d'une manière journaliste. J'ai écrit des articles et j'ai commencé à écrire des livres d'enfants. Je pense que les livres d'enfants, ce n'est pas moins difficile que les livres pour adultes, mais les livres d'enfants, ça n'a pas besoin de grandes recherches. Et puis, c'est des textes un peu plus courts. On a encore un petit peu l'haleine pour faire ça avec des petits morceaux de temps. Et maintenant, comme les enfants ont grandi et ont leur vie à eux, c'est possible de faire des recherches, d'aller à New York, d'aller là-bas et de fouiller les archives. C'est, je pense, j'ai regagné une autre espèce de liberté. C'est aussi un aspect de la vie féminine. Les enfants grandis nous permettent de faire de nouveau de cultiver une profession, oui.
Moi, ça m'a beaucoup touché ce passage dans votre livre, parce que justement, quand j'ai commencé, mon petit, il avait 7 ans et ma fille, elle avait 10 ans. Et c'est vrai, je suis tiraillée souvent entre les deux choses, entre être mère et puis être très engagée en plus de refaire des études. Et c'est même pas tellement les enfants qui me feront les reproches ou mon mari, mais c'est en moi, c'est quelque part, mais presque comme si ma maman, elle venait me dire « Mais enfin !» Tu as fait des enfants, occupe-toi d'eux comme il faut. Regarde tout le monde, il va mal. Pourquoi il va mal? C'est parce que les femmes ne s'occupent pas de leurs enfants. Ça, on entend souvent ça. Et moi, c'est très fort en moi encore. Même si, au niveau intellect, je me dis non, enfin, j'arrive à gérer ça. Et puis, de toute façon, il y a le papa qui est là, ou ils sont chez des copains, ou comme ça. Mais profond, très profondément, moi j'ai ce dilemme souvent. C'est fort. Et la peur, vous dites, vous avez maintenant des enfants qui sont plus grands. Les miens, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge, comme on dit. Donc, je ne sais pas ce que ça va devenir. Et je me dis, peut-être un jour, je vais avoir des reproches. Maman, tu n'étais pas assez là. Tous les week-ends. Moi, je travaille beaucoup le dimanche. Je vais travailler dimanche chez une copine célibataire, heureusement qu'il y a un appartement. Et donc, je laisse mes enfants, bon, toujours avec leur papa, évidemment, mais ce n'est pas une vie de famille normale. D'habitude, le dimanche, on mange le rôti du dimanche en famille. Oh. Enfin, je ne sais pas, c'était...
Quand même, oui.
Mais je veux dire, c'est très fort en moi, ça. C'est personne qui demande ça de moi, mais c'est peut-être mon éducation et toute la culture qui est encore quelque part présente.
Mm-hmm. Et je crois que dans ce sens-là, c'est important qu'il y ait des témoignages venant de différents horizons, de différentes situations, pour confirmer un changement possible, probablement. Mm-hmm. C'est vrai que la vie d'Emily Kempin, à la fin du 9e siècle, à ce niveau-là, elle ne peut pas tellement se comparer avec les vies des jeunes femmes d'aujourd'hui. Alors, pour rassurer Maria, je vais lui dire, bon, moi aussi, j'essaye de concilier ma vie familiale avec ma vie professionnelle.
Moi aussi.
Oui, mes enfants sont grands. J'ai notamment deux grandes filles qui ont 20 ans. Et elles me disent toujours, en tout cas, qu'est-ce qu'on est contente que tu aies une profession. Alors, ça aurait été très pénible d'avoir toujours une mère à la maison.
J'ai exprès un peu caricaturé aussi tout à l'heure avec le rôti du dimanche.
Mais je crois que c'est quand même important de le dire et de reconnaître que c'est quand même beaucoup plus difficile pour les femmes de mener ces deux vies que pour leur mari.
Ouais. Ça, c'est sûr.
C'est drôle, j'ai lu un article d'un de ses enfants. Un des enfants d'Emily a écrit dans les années 20 de notre siècle un article dans une illustrée suisse. Oh. Et l'enfant écrit « Notre mère était une mère pleine de tendresse. » Et les heures où elle était présente, elle était présente d'une grande intensité. Oh. Et je crois que c'est ça qui compte, l'intensité. Et je pense quelquefois d'être 24 heures autour des enfants, ça donne des frustrations, ce n'est pas bien. On se sent victime peut-être. Et ce n'est pas une mentalité qui aide les enfants.
Certainement. Evelyne Hasler, il y a encore une question dans le sens de celle que vous a posée tout à l'heure Annette qui m'intéresse. Dans la partie que vous écrivez, vous venez de le dire, vous y mettez entre autres des préoccupations personnelles, comme par exemple cette vie de femme qui a envie de pratiquer sa profession en même temps qu'elle s'occupe de ses enfants. Mais quelle part de la romance, enfin, par opposition à l'actualité historique, se trouve dans votre livre ou dans n'importe lequel des livres que vous écrivez? Parce que beaucoup de vos livres sont des romans historiques, donc à la fois basés sur un événement, des événements réels, et puis quelle est la part que vous ajoutez qui est vraiment, en guillemets, inventée?
Je pense que je vis dans ce temps-là et l'histoire ne m'intéresse que dans le rapport de notre temps. Et c'est pour ça que je pense que tous mes romans historiques sont très actuels. Et c'est l'actualité qui m'occupe du passé. Et je pense que c'est une manière de considérer un petit peu les choses du présent, de regarder les choses du passé et puis de faire un dialogue entre les choses du passé et les choses actuelles. Ça nous aide beaucoup. On reconnaît des modèles. Oui, on reconnaît un petit peu. Ça explique beaucoup, je pense.
Alors, vous pensez, par exemple, vous parlez parfois de la manière dont elle est vêtue. Ça, vous avez inventé. Vous n'avez pas vu des photographies. Vous n'avez pas vu des photographies d'elle, mais vous avez vu des photographies des universitaires à Zurich.
Oh, ça, c'est assez facile parce qu'on a beaucoup de publications, voilà, d'étudier un petit peu les vêtements de l'époque. Comme on aimait beaucoup les carreaux, par exemple,
et alors vous utilisez bien ça dans les tissus,
tout ça. Oui, oui, j'utilise ça. Et alors, ce n'est pas une inventation. Je pense que ça se base sur des recherches.
Ah, c'est toujours, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Et puis l'ambiance dans les cafés de Zurich, par exemple, ou des choses comme ça.
Je pense qu'on peut très très bien voir des articles de l'époque, des lettres de l'époque. Ça nous donne une impression de l'ambiance.
Alors, vous travaillez quand même avec une pile de documents constants.
Oui, c'est une passion. J'aime beaucoup ça. Oui.
Et les journaux, c'est une source d'information, vous disiez ?
Oui, beaucoup, beaucoup, je pense. Les journaux, sur l'eau, aujourd'hui, on a les microfilms des journaux. Ça nous donne une impression de la vie quotidienne d'une époque.
Mmh. Ça doit être un travail énorme quand même de lire tout ça, je veux dire.
Oui, je pense la première partie, on respecte toujours la première partie des recherches, mais le plus difficile, c'est la deuxième partie. Ah, c'est les scénarios intérieurs, c'est le processus intérieur d'écrire, de choisir les scènes qui sont importantes. Ça, c'est plus difficile.
On n'a pas l'eau.
Anna McEnroth avait promis un souper brillant, puis, au nom des étudiantes, avait fait réserver la petite salle du Plattengarten, rendez-vous de tous les agitateurs, russes, féministes et socialistes, disait-on à Zurich. Émilie, assise au bout de la table à la place d'honneur, se lève pour prendre la parole, retrace sa carrière de juriste, les difficultés rencontrées, les succès new-yorkais, l'attente anxieuse de la décision des autorités zurichoises concernant la profession d'avocat. Jamais on ne l'a vue si libre, si fraternelle. D'habitude, quand il s'agit de sujets personnels, elle ne se livre guère. Elle a toujours ce visage ingénu de jeune fille montée en graines. La frange blonde mal coupée retombe sur le front, derrière lequel on devine de grandes pensées. Pas de rides de réflexion, pas de nez de philosophe, pas de grands gestes. Joliment habillée, mais sans rien de frappant. Une femme sans particularité. Elle parle avec chaleur, présente jusqu'au bout des ongles. Elle pourrait faire une bonne avocate, cela s'entend, se sent. Anna Augsburg, de Verden près de Hanovre, le dit dans son discours et lui souhaite bonne chance. Puis elle conclut par ces mots. Émilie Kempin, nous toutes ici présentes profiterons de vos luttes, de vos expériences. L'oratrice s'est échauffée. On reconnaît l'ancienne actrice. La malice se peint sur son visage. Les joues sous le nez fort se contractent en forme de pomme. Ses collègues applaudissent. Elle remercie, souffle pour chasser une mèche de ses cheveux coupés courts. Anna McEnroth recrute des adhérentes pour l'Union internationale des femmes diplômées de l'université et demande solennellement à Émilie d'en être la présidente. Après le repas, on fera circuler des listes d'inscriptions. La porte s'ouvre, des serveuses apportent les mets et la boisson. Le vin dont les convives n'ont pas l'habitude ne tarde pas à délier les langues. Une étudiante en médecine entonne des couplets à boire et de vieux chants d'étudiants voyageurs. Paroles et musiques sont connues, leurs camarades masculins les chantent lors des soirées au cabaret. Les étudiantes n'ont encore rien en propre, elles commencent seulement à chercher leur identité. De temps en temps, un étudiant jette un coup d'œil par la fente de la porte, étonné de l'exubérance des jeunes femmes. On devine à peine la jolie tête aux cheveux courts d'Anita Augsburg. Sa voisine de table, Anna McEnroth, connue d'ordinaire pour sa réserve, révèle un talent insoupçonné pour le théâtre. On a appris qu'elle écrivait en cachette. Quelques élus ont pu lire une pièce dégoulinante de sentiments, La fièvre de vivre. Elle a encore dans son tiroir une esquisse intitulée La brigande. Elle s'est levée, verre en main. « Cher frère en Apollon », s'écrit-elle avec pathétique, en trinquant avec sa voisine d'en face. Le frère en Apollon, une Zurichoise aux boucles brunes, s'appelle Hedwig Waser. L'enseignement du professeur Knochenmeier à l'Institut d'anatomie était trop aride à son goût. Maintenant, elle étudie la germanistique. Vénère Gottfried Keller, qui vient de mourir. C'est un honneur que d'être invité au modeste thé que donnent Hedwig et sa mère. Le cercle d'étudiants qui s'y réunit régulièrement s'est baptisé Seldvilla, du nom de la maison de la rue de l'université. Au centre du cercle, la zoologue Marianne Plain et Ricarda Hösch. Alors, on a évoqué donc un repas avec ces femmes, ces universitaires, ces rares universitaires femmes de l'époque. Et on a l'impression que là, elles prennent leur élan. Je crois que c'est un peu ce que vous avez voulu nous dire en rédigeant ce passage. Et c'est vers la fin du livre. Et après deux pages, on se rend compte que rien n'a pu se donner. Et j'aimerais terminer en lisant encore un petit passage. La table du banquet, les femmes, un bateau avec deux rangs de rameuses qui vont de l'avant contre vents et marées, à la proue dominant l'écume, Emily Kempin, la lutteuse. L'impression est trompeuse, l'époque n'a encore prévu aucune d'elles.
Et peut-être, Evelyne Hasler, il est une dernière question que nous aurions envie de vous poser. Vous avez écrit deux livres, en tout cas, qui retracent l'histoire d'une femme, Anna Goldin, dernière sorcière, et Emily Kemping, la femme aux ailes de cire. Et ces deux femmes, malheureusement, ont perdu, s'il faut dire comme ça, dans le sens, face à la société dans laquelle elles vivaient. Elles ont perdu toutes les deux, y ont laissé leur vie. Anna Goldin s'est fait décapiter, suspectée de sorcellerie à la fin du XVIIIe siècle, elle, alors qu'on était à la veille de la Révolution française, le siècle des Lumières, n'est-ce pas? Et puis, c'était à Glaris, précisons-le. Et puis, Emily Kemping-Spiri va mourir, elle, en hôpital psychiatrique. Elle va craquer, effectivement, à la veille d'apprendre, elle ne le saura d'ailleurs, je ne crois pas, ça c'est vous qui pouvez nous le préciser, qu'enfin aura été voté à Zurich le droit de donner aux femmes de plaider en tant qu'avocate. Donc elle va capituler, sa tête, entre guillemets, ne va pas supporter tout ce qu'elle a dû endurer jusqu'à ce moment-là. Et les soins qu'elle subira en asile psychiatrique feront qu'elle y mourra au lieu d'en sortir renforcée. Pourquoi avez-vous choisi de raconter la vie de ces femmes qui perdent et non pas qui gagnent?
J'aime beaucoup l'histoire des gens qui perdent. Je crois que les gens qui luttent en vain, c'est les premières hirondelles pour une société qui nous trace un petit peu le chemin pour de modèles nouveaux. Et la psychiatrie sait qu'il faut se rappeler des choses qui ne sont pas tellement avantageuses pour nous. Et je crois que l'écrivain est une espèce de psychiatre pour la société, d'évoquer les histoires des gens qui ont perdu, qui luttent en vain.
Oui, est-ce que c'est un peu typique pour une... Vous êtes aussi historienne, donc pas seulement romancière. Alors, moi, j'ai toujours l'impression, quand on lit l'histoire, justement, qu'on nous apprend à l'école, c'est l'histoire des hommes, justement, qui gagnent, c'est les héros. Et maintenant, vous venez avec des femmes, justement, qui sont nos héroïnes, mais en même temps, ne sont pas des héroïnes, des vraies héroïnes qui gagnent à la fin. Alors, est-ce que c'est aussi le fait de voir ça en tant que femme? Est-ce que c'est...
Oui, je crois comme écrivain, c'est une optique de femme qui m'évoque un petit peu de prendre ces exemples, de décrire les vies de cette femme qui nous a précédés. Et je crois que c'est nécessaire, c'était oublié, c'était occulté.
En tant qu'historienne, vous pourriez peut-être aussi dire, peut-être, enfin, c'est pas les femmes depuis que l'existence de ce monde, souvent elles étaient perdantes.
Oh, c'est peut-être trop généralisé, mais...
Non, mais quand on...
Je crois, vous avez raison, en certains cas, que justement la dernière sorcière, la première femme juriste, c'est des livres qui se donnent la main dans un certain sens. Et je crois, au fond, ces femmes n'ont pas perdu. C'est des femmes qui nous apportent beaucoup. Et il ne faut pas oublier ces vies-là.
Evelyne Hasler, est-ce que c'est un choix conscient pour vous de parler de femmes ? Deux de vos livres sont consacrés à la vie de femme. Vous avez aussi écrit Ibikaba, le paradis dans la tête, qui n'évoque pas seulement l'histoire de femme. Il y a toute une, de nombreux portraits qui se l'ont fait. Par contre, Le géant dans l'arbre, ce n'est pas une histoire de femme. Alors, est-ce qu'il y a une envie d'accorder de l'importance dans votre travail d'écrivaine à des portraits de femmes en particulier ?
Je vois bien que moi, comme femme, j'ai besoin d'histoires de femmes et j'ai besoin de réfléchir de ces histoires. Et c'est pour ça, je crois, que les femmes m'intéressent beaucoup quand j'écris dans mon travail d'écrivain.
Je vous le disais en dehors du micro tout à l'heure, hier soir, par hasard, une jeune amie de ma fille me disait qu'après sa maturité, elle espérait faire le droit. Et je lui dis « Ah, alors j'ai un bouquin fantastique à te faire lire ». Et pensez-vous, vous aussi, que c'est un précieux cadeau à donner aux jeunes filles qui aujourd'hui veulent se lancer dans les études d'avocat ? Est-ce que l'exemple d'Emily Kemping peut les renforcer par rapport à aujourd'hui ? Et je pose bien sûr cette question aussi à Maria, mais j'aimerais bien que peut-être Evelyne Hasler, quand vous aviez écrit, vous vous êtes dit peut-être ce livre aidera les futures jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans cette carrière du droit qui visiblement n'est toujours pas si simple à choisir.
Je crois plutôt que c'est une histoire pour toutes les jeunes femmes, comme il s'agit du passé, il s'agit du futur, et ce n'est pas seulement pour les femmes qui choisissent l'étude du droit.
Ce qui me semble, ce qui est bien montré dans ce livre, c'est de montrer que quand on a la passion de faire quelque chose, quand on aime quelque chose, on peut y arriver. Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes filles, à votre amie là. Il faut dire, mais si tu aimes vraiment le droit, parce que je peux comprendre qu'on puisse aimer le droit. Hein. Moi, je trouve que ça peut être une passion, c'est vraiment passionnant d'apprendre ça. Si on aime quelque chose et si on s'investit dans quelque chose, ça vaut le coup. Vas-y, tu peux.
Et je crois que c'est effectivement peut-être une conclusion générale qui est valable probablement. Moi, je suis ici une enseignante. je m'adresse dans mon métier aussi bien à des jeunes garçons qu'à des jeunes filles. Et je pense que chaque adolescent aujourd'hui, dans la situation assez difficile du choix professionnel, eh bien, l'essentiel, c'est d'avoir une passion et de se dire, eh bien, moi, je vais apprendre ça et après, on verra bien comment je me débrouille. Et je crois que c'est une leçon, effectivement, qu'on peut tirer de la femme aux ailes de cire et qui est valable pour tout le monde, pas seulement aujourd'hui, qui était sûrement valable déjà pour elle, mais dans l'avenir.
Je crois qu'il y a une grande différence, par chance pour nous, c'est qu'on peut se permettre d'être un peu imprudente, nous, aujourd'hui, parce qu'on court beaucoup moins le risque d'avoir nos ailes fondre quand même que le risque courait Emily Kemping-Spyri autrefois. D'abord parce qu'on est toutes ensemble, et enfin, on essaye de se mettre ensemble pour se renforcer, et ça, je crois que ça nous aide beaucoup.
Et que grâce à elle, le chemin a été tracé.
A été tracé, exactement. Alors, nous vous rappelons quand même quelques indications avant de nous quitter, puisque nous arrivons à la fin de cette émission de Remue-Ménage aujourd'hui. Tout d'abord, je vous rappelle les titres des livres écrits par Evelyne Hasler. Vous pouvez trouver aux éditions Zoé, la même qui a donc édité Emily Kemping, La femme aux ailes de cire. Vous pouvez trouver Ibikaba, le paradis dans la tête et Le géant dans l'arbre. Et puis, aux éditions Ex Libris de l'air aussi, vous pouvez trouver Anna Goldin, Dernière sorcière. Et puis, nous rappelons, Annette, le rendez-vous de demain.
Bien sûr, donc c'est jeudi après-midi 2 décembre, de 17h à 19h, à Carouge, librairie L'Inédite, 18 rue Cardinal Mermillot. Donc, Evelyne Hasler sera avec nous et dédicacera son livre.
Alors nous, on a eu la chance de pouvoir discuter avec elle en direct pendant 7h30. Vous pouvez avoir cette chance aussi en vous déplaçant demain à la librairie L'Inédite. Merci beaucoup Evelyne Hasler d'être venue jusqu'à Genève pour discuter avec nous de votre livre. Merci Maria d'avoir fait le rapport avec la situation des femmes d'aujourd'hui qui se lancent dans le droit. Merci à toutes, merci Annette et à très bientôt pour notre prochain rendez-vous.
Bien sûr.
Non, c'est pas celui-là que je voulais vous mettre.